parle, Yves Alain Cornu.
Et nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau guichet sur les conséquences du coronavirus. On a bien compris que le public avait besoin de parler, de poser des questions. Et ça tombe bien, on est là pour y répondre. Dès à présent, vous pouvez poser vos questions. Aujourd'hui, ce sera sur la question du télétravail. Et c'est au 0800 108 208 que ça se passe pour nous appeler dès maintenant. Partagez votre expérience, ces premiers jours de télétravail, posez des questions. Jérôme Zimmermann, on se penche donc sur l'organisation du travail à distance.
Oui, parce qu'une partie de la Suisse se trouve dorénavant en situation de travail à domicile ou home working. C'est bien sûr une mesure qui, quand les conditions le permettent, s'impose aux employeurs pour poursuivre les activités professionnelles, tout en respectant les consignes des autorités pour éviter la propagation du Covid-19, le coronavirus. Bien sûr, c'est essentiellement le secteur tertiaire qui est concerné. C'est trois quarts de la population active, le secteur tertiaire en Suisse. Et on peut dire que ça va être dans pas mal de situations le baptême du feu un peu forcé de cette pratique du télétravail, avec un très large éventail d'employés, d'employeurs qui sont contraints de s'y mettre. Et ce sera aussi l'occasion de mesurer les bienfaits, voire les limites de cette pratique. Par contre, le télétravail ne s'improvise pas si facilement. Ça suppose une organisation et du matériel, comme ordinateur, ligne téléphonique, place de travail. Alors on va s'intéresser aujourd'hui aux aspects pratiques mais aussi aux droits et aux devoirs des employeurs et employés quand il y a télétravail ou quand il y a aussi de la peine à le mettre en œuvre. Et nous attendons vos questions au 0800 108 208, un numéro gratuit que vous pouvez composer uniquement pour passer à l'antenne. Et si vous souhaitez nous écrire pour des questions ou remarques sur le télétravail, rendez-vous sur la page rts.ch/guichet.
Et puis une nouveauté enfin, les messages vocaux par WhatsApp, le numéro auquel vous pouvez envoyer ces messages. Le WhatsApp dont on parle, message vocal, c'est pour le 079 634 634 91 98.
0800 108 208.
Voilà, ça c'est plein de numéros. Celui-ci, donc, c'est le numéro gratuit pour parler en direct avec nos deux invités que nous accueillons maintenant dans ce guichet dont on parle. Stéphanie Fuld, spécialiste en droit du travail, avocate, donc associée au cabinet Bianchi-Schwald à Genève. Bonjour.
Bonjour.
En direct de notre studio de Genève. Et par téléphone, Anne-Marie Van Rampé, consultante en ressources humaines et management. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors avant de répondre aux premières questions, Jérôme, vous l'avez dit en introduction, le télétravail, ça ne s'improvise pas si facilement.
Non, toutes les entreprises n'étaient pas prêtes à introduire le télétravail. Olivier Falciano, directeur de la société Proclic, spécialiste en sécurité informatique et travail à distance, le confirme au micro de Frédéric Vollery.
Depuis quelques jours, nous sommes fortement sollicités par nos clients. Tout le monde veut pouvoir travailler à distance. Par exemple, ce matin, en quelques heures, on a reçu plus d'une vingtaine de demandes de la part de petites et moyennes entreprises.
Mais ça concerne que les petites entreprises ?
Non, les grandes entreprises sont également touchées, mais elles sont beaucoup mieux préparées. C'est un peu plus compliqué pour les petites structures.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles ?
Si nous voulons respecter les règles de sécurité informatique, il faut comprendre qu'une entreprise, elle doit au minimum être équipée de ce qu'on appelle un « firewall », pour pouvoir se protéger contre d'autres types de virus que celui qui nous préoccupe réellement aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'en autorisant le travail à distance, on crée d'autres failles de sécurité.
Donc, c'est ce que vous devez mettre en place pour que ces petites entreprises puissent travailler ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, actuellement, on est en train de préparer, d'installer ce qu'il faut pour que la plupart des entreprises puissent travailler à distance. Il faut quand même savoir que toutes les applications, tous les programmes métiers ne sont pas forcément compatibles avec le travail distant.
Et si un patron d'une petite ou moyenne entreprise vous entend, est-ce que c'est trop tard pour installer le télétravail ou est-ce que c'est encore possible ?
Non, c'est encore possible. Là, c'est clair qu'on est pas mal chargé, on a pas mal de demandes, mais c'est encore possible. Je pense que c'est quelque chose, de toute façon, qui est dans l'air du temps, à part l'événement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et le télétravail, c'est quelque chose qui est utilisé partout depuis déjà un bon moment. Et je pense que de toute façon, il faut aller dans ce sens-là.
Voilà. C'est Olivier Falciano, le directeur de la société Proclic, qui répondait à Frédéric Vollery. Anne-Marie Van Rampé, peut-être une réaction à ce témoignage, qui rappelle que déjà le télétravail ne s'improvise pas et qu'en fait, c'était pas si répandu comme pratique avant que le coronavirus n'intervienne.
Oui, en effet, peu pratiqué ou peu répandu, avec un certain nombre d'appréhensions qui, bien que légitimes du côté des employeurs, aujourd'hui, voilà, on peut imaginer travailler autrement, ça fonctionne, ça marche. Merci à la personne qui vient de s'exprimer en disant oui, c'est dans l'air du temps et il faut y aller. Et les moyens existent, les outils aussi.
Alors les moyens existent, les outils, mais ben voilà, ça soulève pas mal de questions autour du matériel. Par exemple, Tobias qui nous a écrit, j'aimerais savoir si l'employeur doit ou peut fournir le matériel permettant le télétravail et s'il peut insister de pas utiliser le matériel privé pour des raisons de sécurité informatique. En plus, peut-il raisonnablement imposer des réunions de travail virtuelles par équipe pour garder une certaine cohésion et assurer la cohérence des activités? Alors c'est en deux parties, mais sur la première partie, est-ce que l'employeur peut ou doit fournir le matériel? Stéphanie Fould, est-ce que voilà, il y a des textes qui stipulent que le matériel c'est uniquement l'employeur qui le fournit ou on peut quand même laisser les employés utiliser leur propre matériel si la situation le permet?
Alors effectivement, je pense qu'il faut distinguer un petit peu les situations d'urgence dans lesquelles on est en train de se dépatouiller actuellement et la réalité juridique. Il n'y a pas de cadre légal pour le télétravail, sauf certaines sociétés qui effectivement ont mis en place des règlements internes, mais il n'y a pas de cadre fédéral ou cantonal pour ce genre d'activité. Par rapport à l'activité qui est faite à domicile, on peut s'attendre effectivement à ce que l'employé participe dans une certaine mesure à mettre à disposition son chez lui, son matériel, pour autant qu'il ait une place de travail effectivement aussi sur le lieu de travail et que ce soit momentané. Maintenant, si c'est des gens qui doivent travailler à domicile de manière fixe et continue parce que l'employeur n'a pas de locaux du tout en Suisse, à ce moment-là, effectivement, l'employeur doit intégralement payer. Non seulement le pourtour et le mobilier, mais également l'espace qui est utilisé. Mais pour une situation de dépannage comme actuellement, on peut se dire, s'il y a une mise à disposition et puis une sécurisation qui est assurée par l'employeur, l'employé peut mettre à disposition une partie de son propre ses propres biens pour effectivement exécuter la tâche.
Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail à Genève, et Anne-Marie Van Rampé, en ligne également, consultante RH et management. 0800 108 208 pour leur poser toutes vos questions jusqu'à 9h30. Êtes-vous actuellement en train de télétravailler? Êtes-vous en train d'essayer de mettre cela en place avec votre employeur? Posez-nous toutes vos questions. Dites-nous comment ça se passe ces premiers jours. Nous avons Pierre qui nous appelle de Villars-Sainte-Croix en ligne. Bonjour Pierre.
Bonjour. Ma question est toute simple. C'est, étant représentant un conseiller technique, on visite des industries toute la journée. Faire du télétravail, c'est juste, pour ainsi dire, pas possible pour nous, à moins de prendre des rendez-vous avec des clients. Mais dès le moment qu'on ne peut pas aller les voir à cause de la transmission, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme travail? Est-ce qu'on va être payé? Est-ce qu'on ne va pas être payé?
Vous êtes indépendant vous-même?
Non, je suis employé d'une société, mais qui a pas de, qui est en Suisse allemande, je suis sur la Suisse romande, et on travaille, on va voir les clients toute la journée. Après, faire du télétravail, c'est possible dans la mesure du possible, où on doit appeler les clients, mais dès le moment qu'on peut pas aller les voir, ça sert pas à grand chose.
Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, hier?
Alors, hier, je suis resté à la maison. J'ai appelé 2-3 clients, voir s'il y a moyen de les voir, mais la plupart des clients ne veulent pas qu'on aille les voir. L'horlogerie, par exemple, on a interdiction d'aller les trouver. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Et puis, comment ça va aller sur la suite au niveau de nos salaires?
Votre employeur vous a donné des informations, déjà?
Alors, ils attendent. Il paraît que pour les représentants, il y a une chose qui se fait, qui est en train de se décider, parce que comme on a des horaires irréguliers, au niveau du chômage partiel, on touche pas, ils n'arrivent pas à définir les heures. Donc, il paraît qu'ils seraient en train de discuter pour arriver à nous faire des chômage à 100%. Mais ça, on ne sait pas, on attend. Si on attend d'ici vendredi, il y aura peut-être une réponse.
Incertitude, obligé de rester à la maison quand on est représentant, que notre seul lieu bureau, c'est d'aller dans la voiture, rencontrer les gens. Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Pierre de Villars-Sainte-Croix?
Alors, je pense que la première chose, c'est quand même à l'employeur de donner des directives et d'organiser le travail de l'employé, que ce soit à domicile ou dans sa voiture ou effectivement au bureau. Il apparaît qu'il y a un certain flou là dans l'organisation. Je pense que c'est un flou momentané qui est lié aux circonstances. Mais effectivement, si l'employeur, à un moment donné, considère qu'il n'y a plus assez de travail pour ces personnes, à ce moment-là, c'est aussi de sa responsabilité de s'adresser aux autorités pour recevoir une réduction de l'horaire de travail et des soutiens financiers qu'on a avec. Et il faudra effectivement qu'il, calcule le nombre d'heures qui doivent être indemnisées. Et peut-être que c'est pas un 100%, mais qu'effectivement, un certain nombre de tâches peuvent être quand même faites depuis le domicile, même pour des gens qui sont généralement sur la route.
Anne-Marie Van Rompé, vous êtes consultante en ressources humaines. Est-ce que les employeurs font face à leurs responsabilités ces premiers jours? Est-ce qu'ils informent bien le personnel de ce qu'ils peuvent faire? Ceux qui ne peuvent plus télétravailler pour des raisons, comme Pierre de Villars-Sainte-Croix, parce qu'il est en contact permanent avec des clients. Est-ce que vous pensez que les employeurs font preuve de souplesse ces premiers jours?
Alors, difficile à faire preuve de souplesse, il y a beaucoup d'appréhension, je l'ai dit tout à l'heure, mais en effet, non, les employeurs ont encore une marge pour faire mieux en matière de communication, en matière de rassurer aussi, ça c'est le rôle capital d'un manager, surtout dans une période de crise comme celle que nous vivons, et par rapport au télétravail en particulier, informer, tenter de mettre, une réaction en disant oui, vos clients, vous pouvez pas les voir, peut-être qu'on pourrait imaginer de les voir de manière virtuelle, c'est-à-dire par visioconférence, garder un contact, un suivi client, communiquer, c'est aussi des approches qu'on peut imaginer de faire autrement aujourd'hui, et notamment grâce au télétravail.
079 634 91 98, ça c'est le WhatsApp dont on parle si vous voulez laisser un message vocal qu'on diffusera durant l'émission. Si vous voulez, comme Pierre, nous raconter vos premiers jours de télétravail ou poser une question juridique, c'est le 0800 108 208, le numéro est gratuit, 0800 108 208. Isabelle vient de le composer, elle nous appelle de Payerne. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Ma question, moi mon travail, on peut malheureusement pas faire de télétravail. Et notre employeur nous a demandé de s'organiser entre nous pour être là certains jours, puis pas d'autres, pas tous en même temps. Les jours où on est obligé de prendre congé, comment ça se passe? Est-ce que l'employeur doit nous l'offrir ou bien est-ce qu'on doit les prendre sur les vacances en attendant de savoir combien de temps ça va durer?
Parce que pour l'instant, vous n'avez pas d'informations. Vous ne devez simplement pas aller au travail certains jours, mais vous ne savez pas si ce sera des vacances, si ce sera des jours
alors,
payés.
Pour le moment, l'employeur nous a dit que c'était pris sur nos vacances en attendant de savoir combien de temps ça durait. Mais je voulais justement voir un petit peu s'il y aurait une aide financière auprès des employeurs pour nous offrir ces jours qu'on ne peut malheureusement pas aller travailler. Ou bien si on doit se les prendre sur les vacances et puis serrer les dents.
J'ai vu un sourcil se lever du côté de Genève à travers la webcam. Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail, poser des vacances pour un cas de force majeure indépendant de la volonté des employés, c'est possible?
Alors, je dirais que normalement, les vacances se prennent d'entente les parties. Les parties doivent s'organiser effectivement pour fixer leurs vacances et les fixer assez à l'avance pour que ça puisse satisfaire aux besoins de tout le monde. Il est possible pour l'employeur, dans certaines circonstances, de fixer des vacances, mais normalement, il doit les fixer 3 mois à l'avance, notamment quand il y a des fermetures d'entreprise annuelles. Les employés savent à l'avance à quel moment ils seront en vacances. Maintenant, moi, je suis d'opinion, mais c'est mon opinion que j'engage, là, qu'effectivement, dans ces situations de crise, il peut y avoir une certaine solidarité entre l'employeur et l'employé. Et l'employé peut, effectivement, on pourrait demander à l'employé, effectivement, de prendre un certain nombre de jours de vacances pour réduire le dommage, non seulement de l'État par rapport à la réduction des heures de travail, mais également celui de l'employeur, pour effectivement réduire tout ça en prenant un certain nombre de jours de vacances, peut-être pas l'intégralité, mais pour effectivement pallier au manque d'organisation qui est actuellement en cours partout.
Ça fait donc partie de cette solidarité qu'on nous demande tous d'appliquer. Hein. C'est pas uniquement de ne pas s'approcher des personnes âgées, mais c'est aussi peut-être de jouer le jeu pour préserver l'économie, préserver aussi nos propres emplois à long terme. On n'est pas là dans le pur juridisme au jour près, à l'heure sup près. Je crois que ce qu'on entend dans votre discours, Stéphanie Fuld, c'est qu'il va falloir un petit peu chacun essayer d'y mettre du sien pour traverser cette période le mieux possible. Je rappelle le numéro que vient de composer Isabelle. On la remercie d'ailleurs. C'est le 0800 108 208, et pour un petit WhatsApp vocal, c'est 079 634 91 98. Mais on a aussi reçu des questions par écrit sur notre guichet rts.ch/guichet. Je rappelle l'adresse, Jérôme Zimmermann. Plusieurs messages en effet.
Plusieurs messages. Il y a les situations de télétravail, mais il y a aussi les situations des personnes qui aimeraient bien télétravailler, mais qui doivent continuer à se rendre en entreprise. Et elles se demandent si elles sont obligées de continuer à venir au bureau ou sous quelles conditions. Exemple, ce message, je travaille dans le domaine de la finance, dans une trust compagnies plus précisément. Et suite à l'annonce du Conseil fédéral, c'était hier, hein, l'employeur a décidé que l'entreprise n'était pas concernée par le confinement. Enfin, officiellement, c'est pas encore du confinement, car on fait partie des services essentiels et par conséquent, nous devons continuer à venir au bureau pour travailler. Étant donné que je ne travaille pas dans une banque, mon employeur s'est organisé de façon à ce que nous puissions travailler depuis la maison. Est-ce que mon employeur est en droit de nous demander de continuer à venir au bureau? On reste avec vous, Stéphanie Fuld. Est-ce que voilà, l'employeur est dans son droit alors que certains employés peuvent avoir peur du virus dans les bureaux?
D'accord. Alors effectivement, l'employeur il peut exiger à ce que ses employés viennent et continuent à travailler, mais il a aussi l'obligation de mettre en place toutes les mesures de sécurité afin d'assurer que les employés puissent exercer l'activité dans un endroit qui est totalement sécurisé. Si les employés ont un doute sur la sécurité et sur l'hygiène qu'il y a au sein de l'entreprise, ils peuvent ensuite mettre en demeure leur employeur de bien vouloir sécuriser les lieux de travail pour qu'ils puissent exercer leur activité tout à fait correctement.
Mais est-ce que l'employé peut carrément refuser, même s'il ne doute pas des conditions d'hygiène de l'employeur, mais peut-être de dire j'ai pas envie de prendre les transports publics, on nous dit de faire attention, d'éviter la promiscuité. Est-ce qu'on peut refuser de se rendre physiquement au travail, même si l'employeur ne nous donne pas d'outils pour télétravailler?
Non, alors je pense que l'employé doit effectivement continuer à quelque part se soumettre aux directives, et ce d'autant plus si l'employeur a mis en place tout ce qui est en fait attendu de lui pour que la sécurité soit assurée au sein du travail. Je crois que les exceptions ont été citées en fait hier soir par le Conseil fédéral quand il dit que seules les personnes qui sont extrêmement vulnérables peuvent quelque part quitter l'employeur et rentrer chez eux pour soit télétravailler, et s'ils ne peuvent pas télétravailler, ils seront quand même payés. L'exception, elle ressemble beaucoup à celle de la femme enceinte qui peut quitter le lieu de travail quand la sécurité ou la capacité de travail telle qu'elle est actuellement organisée par l'employeur ne peut plus être exécutée en raison de son état physique. Mais c'est la seule exception qui existe. Autrement, l'employé doit effectivement venir travailler en s'assurant lui-même qu'il prend les mesures de sécurité pour venir au travail. Dans la mesure de ses moyens, c'est pas de la responsabilité de l'employeur, cette partie-là.
Anne-Marie Van Rompé, si on doit définir cette sécurité au travail, c'est s'assurer que les entreprises peuvent respecter les recommandations officielles, c'est-à-dire qu'elles doivent fournir aussi tous les produits, les désinfectants, la distance entre les employés, c'est toutes ces règles-là qu'il faudrait réussir à respecter.
On est là pour nos micros, là, petit désinfectant.
Oui. Alors, c'est toutes ces règles-là, en effet, maintenant, si on se met du côté de l'employeur, à choisir entre mettre la distance, mettre à disposition les produits qui vont peut-être pas être trouvés facilement, ou imaginer l'employé, typiquement là dans le domaine de la finance, qui travaille sécurisé au niveau des données depuis son domicile en télétravail avec un espace agréé, peut-être qu'en effet il est temps de se poser la question tout de même. Nous ne sommes pas dans des temps normaux, à situation exceptionnelle, imaginez de lâcher un peu cette peur, hein, en disant non mais voilà, peut-être qu'on va pas pouvoir contrôler nos employés. Essayez, ça c'est mon message, tentez, typiquement dans cette situation décrite, le télétravail pourrait être la solution, à la limite bien meilleure que pour tenter aussi de combattre toutes les peurs. Hein. Si je me mets à la place de ce monsieur, de se dire, ok, je sais pas, je vais voyager peut-être dans un transport public, je vais arriver au bureau, et puis la distance, si je dois donner un document à mon collègue, les 2 mètres pourront pas être respectés. Parce que nous ne sommes pas habitués à cela.
On en parle, guichet spécial organisation du télétravail dans le cadre évidemment de l'épidémie du coronavirus. 0800 108 208, le numéro pour poser votre question jusqu'à 9h30. Kevin est en ligne de Genève. Bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, je vous ai appelé, mais vous avez déjà répondu à ma question, en fait. C'était exactement la question qu'on a répondu avant. C'est dans quelle mesure l'employeur est soumis, en fait, enfin à l'obligation de pratiquer le télétravail ou de proposer le télétravail à ses employés par rapport au message du Conseil fédéral d'hier.
Ce seraient des conditions que vous souhaiteriez obtenir vous-même du télétravail auprès de votre entreprise, ou est-ce que vous êtes vous-même employeur?
Non, alors moi je suis employé, j'ai le télétravail, on est parti un peu en urgence, mais on a réussi à s'organiser en prenant nos écrans, en prenant un peu plein de choses comme ça, donc on fonctionne bien, mais c'est plus pour des connaissances où on parle en fait, et puis pour eux c'est vraiment pas clair.
Alors, on a éclairci ce point, oui, juste auparavant.
Ouais, j'ai peut-être une autre question.
Oui.
En fait, dans quelle mesure l'obligation de rassemblement de 5 personnes au plus s'applique à un employeur? Je pourrais dire, je pourrais poser cette question, en fait.
Alors, on va poser la question peut-être à Stéphanie Fuld, puisqu'à Genève, c'est là qu'on est le plus strict, je crois. C'est vraiment 5. Hein, dans certains cantons, vous, ce serait 10. Comment ça va se passer, une réunion à 5? Déjà, qu'est-ce qu'une réunion? Prendre le bus, est-ce que ça va être considéré comme un regroupement de personnes aussi? Vous avez une idée là-dessus?
Alors, je crois que ça n'a pas été défini en tant que tel. Maintenant, on peut s'imaginer... L'objectif, c'est effectivement qu'on limite au possible les contacts humains et donc d'éviter, enfin, avec les moyens technologiques qu'on a de nos jours, il est possible effectivement de limiter au possible les réunions de personnes physiquement. Maintenant, ils ont pas été, le nombre de 5 personnes par mètre carré n'a pas été défini par aucune institution à ce jour, donc peut-être qu'il faudra à un moment donné donner une définition plus claire. Au Téléjournal, il me semble, hier soir, il a été effectivement mentionné que si on faisait une visite, c'était fort probable qu'on allait rencontrer 5 personnes et que ça devait être la seule et unique de la journée. Donc il y a une genre d'appréciation personnelle qui doit être faite de cette question de 5 personnes.
Merci Stéphanie Fuld, voilà, qui complète donc la question de Kevin qui nous appelait de Genève. On va s'interrompre le temps des informations de 9h, on en parle, le guichet reste ouvert à toutes vos questions télétravail jusqu'à 9h30. Je vous rappelle le numéro 0800 108 208 pour nous parler en direct à la radio, poser toutes vos questions à nos deux invités, Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail associée au cabinet d'avocats Bianchi Schwald à Genève, et Anne-Marie Van Rampé au téléphone, consultante en ressources humaines et management en votre compagnie. Jérôme Zimmermann, et puis je vous rappelle le numéro WhatsApp de l'émission 079 634 91 98 pour nous laisser un petit message vocal.
La première vous offre l'heure.
Et on en parle, le guichet revient donc dans très exactement 6 minutes. Voici le journal, il est 9h sur la première.
RTS Info. Alexandra Planinich.
Et on ouvre ce journal avec cette annonce de la centrale nationale d'alarme pour toute la Suisse. L'armée suisse va convoquer ces prochains jours les militaires des troupes sanitaires et logistiques pour un service d'appui. Les formations à disponibilité élevée sont engagées pour soulager le personnel du système suisse de santé et fournir des prestations logistiques. La population est priée de suivre la consigne de comportement suivante. La convocation pour cette mobilisation se fait par e-alarme. Si vous recevez un tel message, vous devez le quittancer et entrer en service conformément aux instructions. Et cet appel n'est pas anodin. Hôpitaux, logistique et sécurité, le Conseil fédéral a approuvé hier le recours à l'armée pour appuyer les cantons dans leur lutte face au virus Covid-19. Le canton de Vaud serait le premier canton romand à en faire la demande. C'est ce que nous a indiqué ce matin Denis Froidevaux, chef de l'état-major de conduite. Car les autorités civiles vont avoir besoin de l'armée pour les semaines à venir. Elle pourra soutenir le système de santé, mais aussi monter par exemple des infrastructures, mais aussi soutenir les corps de police cantonaux dans le domaine de la sécurité. Et c'est une bonne chose pour la conseillère aux États, Andrea Gmür, présidente du groupe du centre.
Oui, il faut aller à fond maintenant. Et l'armée, elle a plusieurs tâches. Et vraiment, l'objectif le plus important, c'est la protection de la population. Et c'est ce qu'on fait maintenant aussi. Il faut avoir encore plus de personnel infirmier. Comme ça, on a des gens supplémentaires qui peuvent aider pour que les hôpitaux marchent normalement. C'est aussi pour protéger les douanes ou bien pour soutenir. Alors, il y a plusieurs possibilités pour l'armée. Et je pense que toutes les possibilités qu'on a, il faut les utiliser. Moi, je pense que ça va aussi donner de la confiance et c'est bien comme ça.
Des propos recueillis par Camille Degotte. Un programme de dépistage pour mieux cerner l'épidémie de coronavirus, c'est la volonté du canton de Berne. Ce programme sera lancé la semaine prochaine, a indiqué hier le conseiller d'État Pierre-Alain Schneeg. Ce premier centre de test sera ouvert à Berne. Le directeur de la Santé, des Affaires Sociales et de l'Intégration a encore précisé que la situation dans les hôpitaux bernois est sous contrôle. Une quinzaine de personnes sont hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs. Le canton de Berne a enregistré hier son premier décès lié au Covid-19. Les nouvelles mesures prises par le Conseil fédéral contraignent les CFF et cartes postales à réduire graduellement leur offre à compter de jeudi. Le service de base est garanti, mais les cadences vont se réduire progressivement, d'abord pour les grandes lignes nationales et internationales, puis pour le trafic régional. Il faut dire, Sylvie Belzer, que la demande a déjà considérablement diminué.
Depuis le début de la crise, la demande pour les transports publics a déjà chuté de 50% pour le trafic national. Or, suite aux nouvelles mesures, il faut anticiper une baisse plus importante encore du nombre de passagers, mais aussi des problèmes potentiellement de main-d'œuvre. Alors, premier touché, le trafic grande ligne en Suisse. À compter de jeudi, les trains circuleront toutes les heures au lieu de toutes les demi-heures, comme c'est le cas actuellement. Pour ce qui est du trafic international, ils ne circuleront plus que jusqu'à la frontière, à savoir Chiasso et Brigue pour les trains à destination de l'Italie, Bâle et Schaffhouse pour ceux à destination de l'Allemagne et Bâle ou Genève-Cornavin pour les TGV. Enfin, pour ce qui est des trains régionaux comme le Léman Express par exemple, ils continueront de circuler normalement sous réserve d'autres décisions prises par les autorités françaises. Mais comme tous les trains ou bus régionaux circulant en Suisse, la cadence sera abaissée à la demi-heure au lieu du quart d'heure.
Et les CFF et Car Postal exhortent donc les passagers à consulter l'horaire en ligne avant chaque déplacement. En Europe et dans le monde, les restrictions continuent de pleuvoir, mais la Pologne n'a pas attendu de voir son pic de malades grimper en flèche pour prendre des mesures drastiques. Fermeture d'écoles, d'universités, des cinémas et musées ainsi que les restaurants depuis la semaine dernière. Les vols et trains internationaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les autorités préviennent, si les personnes mises en quarantaine ne respectent pas les règles, eh bien ce sera amende, voire même la prison. Fanny Boucaud.
Ils sont au moins 8000 à devoir obligatoirement rester chez eux, car testés positifs ou soupçonnés de porter le virus. D'autres séjournent à l'hôpital et ne peuvent en aucun cas en sortir. Briser la quarantaine peut vous coûter en Pologne une amende de 5000 zlotys, soit 1200 francs suisses. Pourtant, deux patients ont quitté leur chambre d'hôpital alors qu'ils étaient suspectés d'avoir le virus. Et pour ça, ils encourent jusqu'à 8 ans de prison s'ils ont mis en danger la vie d'autrui, donc entraîné une menace épidémiologique. Une enquête est en cours concernant ces deux cas. Le gouvernement prévient que la quarantaine pourrait bientôt toucher 100 000 personnes et c'est la police qui vérifie que les gens respectent bien l'isolement obligatoire, les appelle et les géolocalise. Et maintenant, pour tous ceux qui entrent en Pologne, ils seront directement mis en quarantaine. Pour l'heure, au moins 30 000 Polonais ont demandé de l'aide aux autorités pour rentrer. À Varsovie, Fanny Boucaud pour RTS Info.
La primaire démocrate dans l'Ohio reportée à peine quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. L'État américain du Midwest a déclaré l'urgence sanitaire à cause du coronavirus. Meeting en ligne, débat sans public et maintenant une élection reportée au dernier moment. La pandémie affecte profondément la campagne de Joe Biden et Bernie Sanders, les deux candidats à l'investiture démocrate. Toujours aux États-Unis, Amazon va augmenter les salaires des employés des entrepôts dans le monde, 2 dollars ou 2 euros de plus par heure environ pour que les autres puissent rester chez eux, indiquait hier le géant américain du commerce en ligne. Cette augmentation va lui coûter plus de 350 millions de dollars. L'entreprise va également recruter 100 000 personnes aux États-Unis pour faire face à l'afflux de commandes liées à la crise du nouveau coronavirus. Les usines européennes de production automobile Peugeot, Citroën ou encore Opel à l'arrêt en raison du coronavirus, c'est ce qu'a annoncé hier le groupe français PSA. L'épidémie a des répercussions en matière d'approvisionnement de fournisseurs majeurs ainsi que sur le marché automobile qui est en forte baisse. Et du côté du ciel, temps généralement ensoleillé malgré quelques voiles de nuages aujourd'hui et quelques cumulus l'après-midi. En pleine, maximum 17 degrés, 19 en Valais, une bise soufflera légèrement sur le plateau.
On en parle, Yves Alain Cornu.
Deuxième partie de notre guichet spécial télétravail. En notre compagnie, Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail, associée au cabinet avocat Bianchi Schwald à Genève, et Anne-Marie Van Rampé, consultante en ressources humaines et management. Rebonjour à toutes les deux.
Rebonjour.
Jérôme Zimmermann, avant de prendre un nouvel appel, on a reçu également un commentaire sur notre page Facebook.
Sylvain, oui, qui nous a écrit « Bonjour, on parle pas de tous les jobs qui ne peuvent pas se faire en télétravail, emploi manuel, chantier agriculteur, horticulteur, mécanicien, etc. Arrêtez de penser que le télétravail est la solution. Pareil pour tous les petits commerces qui sont fermés. J'espère juste que les millions de Bernes iront chez eux avant les multinationales et grands groupes suisses. » Voilà pour le message, le commentaire de Sylvain.
Alors à ce propos, on peut tout de suite lui répondre. Sylvain, on a effectivement prévu dans un prochain guichet, ces prochains jours, de nous intéresser également à toutes les personnes qui ne peuvent tout simplement plus travailler en raison des fermetures des restaurants, notamment de toutes les entreprises qui ne fonctionnent plus, télétravail ou non. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Les conséquences économiques, on y reviendra sans doute ces prochains jours, tout comme les voyageurs, les seniors, enfin toutes les personnes touchées de près ou de loin. On essaiera d'oublier personne, bien sûr, pendant toute cette crise qu'on se promet de traverser avec vous autant que possible. Place tout de suite aux questions télétravail donc. Nous avons Monia qui est en ligne de Bienne au 0800 108 208. Bonjour Monia.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
J'ai juste une petite question. Je travaille pour l'administration publique. Donc, je suis assistante. J'effectue un travail qui est très bureautique. J'ai une maladie auto-immune et j'ai demandé il y a déjà une semaine en arrière à mon médecin de me fournir une attestation comme quoi j'ai une maladie auto-immune chronique et qui nécessite un traitement mensuel. J'ai soumis cette attestation à mon employeur qui m'a autorisé le télétravail. Je le remercie. Mais il me demande de m'organiser pour passer au travail une fois que plus personne n'est au bureau pour régler les choses qui n'ont pas pu être faites depuis chez moi. Et je m'interroge sur cette pratique parce que hier soir, j'y suis allée. Je suis arrivée, il y avait les dames de ménage qui étaient là, qui faisaient leur travail et donc soulever la poussière avec les aspirateurs, les bureaux qui sentaient le renfermer, les gens qui avaient peut-être touché ma place de travail en posant des choses dessus alors que je n'étais pas là. Et l'explication de mon employeur, c'est que pour le moment, notre fils n'est pas mis en quarantaine, donc il n'y a aucune raison d'observer des mesures particulières. Il suffit en fait d'avoir une bonne hygiène personnelle et normalement tout va très bien. Et je m'interroge sur le fait que je dois, de un, travailler depuis la maison, de deux, m'organiser pour descendre quand il n'y a plus personne au travail. Qu'en est-il?
Merci Monia. Merci pour cette question, ce témoignage. Alors, Stéphanie Fuld, là, typiquement, dans ces cas particuliers, comment on s'adapte?
Alors, je pense que la première chose, si effectivement l'employeur a mis en place la possibilité de faire du télétravail, l'employé doit effectivement s'y plier. Ça, c'est par rapport à la première question. Maintenant, dans le cas de cette personne, elle a manifestement des risques particuliers. Donc, je pense que très clairement, elle répond à cette nouvelle, à la nouvelle ordonnance qui a été rendue hier soir par le Conseil fédéral, dans laquelle effectivement, elle peut refuser d'aller sur le lieu de travail, ce d'autant plus que le télétravail est en place. Et je pense qu'en tout cas, l'employeur ne devrait pas lui demander dans ces circonstances, avec un certificat médical qui atteste de ce risque particulier, de venir sur le lieu de travail et de s'arranger aussi différemment sur cette question de quelques heures le soir ou quelques passages qu'elle doit faire en organisant cette partie-là du travail différemment pour cette personne, parce que clairement, elle peut refuser sur la base de son certificat de travail de venir faire ses exécutions sur le lieu de travail. Et elle le sera payée.
0800 108 208, on continue de prendre vos questions. Jérôme Zimmermann, des questions également.
Oui, on va revenir sur une thématique qu'on a reçue plusieurs fois par message écrit, c'est la garde d'enfants en même temps que le télétravail. Par exemple, Nicolas qui nous a écrit, bénéficiant du télétravail, mon employeur me donne 3 jours pour trouver une solution de garde pour mes 2 enfants en bas âge, sans quoi je devrais prendre des jours, en fait des semaines de vacances. Les solutions de garde, bien sûr, elles sont plus disponibles, les crèches sont ouvertes uniquement aux professionnels prioritaire, les grands-parents eux, ne doivent pas garder les enfants. Nicolas, donc 2 questions. Dans ce contexte, l'employeur n'est-il pas tenu de verser le salaire même si la journée complète de télétravail ne peut être assurée en raison de la garde d'enfants pour laquelle je me substitue à une tâche que l'État ne peut plus accomplir? Nicolas nous demande aussi pourquoi l'État ne communique pas plus clairement à ce sujet, soit en renforçant le devoir de solidarité des employeurs dans cette situation exceptionnelle, soit en clarifiant les conditions d'accueil des garderies. Bon, pour la question de la communication de l'État, ça va être compliqué pour nos invités de répondre à la place des autorités, bien sûr. Mais sur l'aspect des solutions de garde, là, on se doute bien que tous les parents d'enfants en bas âge se trouvent face à un dilemme. Est-ce qu'on pourrait télétravailler et garder ses enfants? Déjà, sur l'aspect pratique, Anne-Marie Van Rompuy, est-ce qu'on peut envisager télétravailler avec des enfants à proximité?
Alors, oui, c'est envisageable si on part du principe que la journée complète de travail, hein, si on estime une journée de 8 heures, elle peut se faire à des horaires différents. Donc, travailler à son domicile en télétravail avec un enfant en bas âge, c'est extrêmement difficile parce qu'on peut pas être consacré soit à une activité, soit à l'autre à plein temps comme on le souhaiterait. Par contre, de décaler les horaires, c'est-à-dire quand l'enfant dort ou le soir ou à d'autres moments. Donc, tant que les délais finaux sont respectés, il est possible d'aménager finalement cette répartition entre le travail, même s'il est fait ailleurs que dans l'entreprise, et la vie familiale, donc la garde des enfants.
Et donc, 3 jours pour trouver une solution de garde, parce que là, on vient de parler d'aspect pratique. Je m'adresse maintenant à Stéphanie Fuld. Ces 3 jours que donnent les entreprises pour que les employés trouvent une solution, alors qu'il n'y a absolument plus de possibilité de faire garder les enfants, là, on est vraiment dans une situation inextricable.
Alors, c'est parce que le cadre légal prévoit effectivement, dans les cas de maladie d'enfant, que le parent a effectivement 3 jours pour s'organiser. Maintenant, effectivement, l'employeur n'a pas forcément à supporter plus longuement les coûts liés à l'absence d'organisation des gardes des parents, mais dans une situation de nouveau extrêmement difficile et urgente, on peut se poser la question si effectivement l'employeur ne devrait pas supporter de manière plus étendue la prise en charge des salaires. Je crois que l'État de Genève a clairement annoncé qu'il autorisait 10 jours pour les parents pour s'organiser, ce qui donc élargit largement le contexte des 3 jours qui sont prévus par la loi. Et on pourrait se poser la question effectivement si les employeurs de manière générale ne devraient pas effectivement autoriser les parents d'avoir un peu plus de temps en les payant, et puis dans un deuxième temps leur demander d'utiliser en priorité leurs jours de vacances pour pouvoir pallier effectivement à ces manques de garde ou de disponibilité de garde.
Merci Stéphanie Fuld. On va prendre un nouvel appel, mais d'abord un petit WhatsApp vocal envoyé au 079 634 91 98.
Bonjour. Écoutez, cette question peut-être a déjà été posée, mais j'étais intéressée de savoir dans quelle mesure l'employeur doit payer le 100% du salaire de son employé. Si en l'occurrence celui-ci, donc l'employeur, promet le 80% du salaire de l'employé, cela veut dire que le 20% restant va être payé par le chômage ou qui va prendre en fait le restant des 20%. Merci de votre réponse. Au revoir.
Voilà, alors le 100% du salaire payé dans ces circonstances. Alors, on avait dit en début d'émission, Stéphanie Fuld, que juridiquement, on pouvait discuter, mais que dans une telle situation, il va falloir accepter chacun de toutes parts d'y mettre un peu du sien.
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris la question, mais effectivement, le chômage partiel ou la réduction de l'horaire de travail prévoit une prise en charge de l'État à hauteur de 80%. Donc, il y a effectivement une perte qui sera... à supporter par l'employé, comme dans une situation de chômage. L'objectif de cette réduction de l'horaire de travail, c'est de garantir l'emploi et effectivement de permettre aux gens de revenir dans quelques semaines. Donc c'est une perte momentanée dans l'idée effectivement que ces gens vont pouvoir effectivement revenir travailler et reprendre leur poste pleinement. Donc il n'y a pas de règle actuellement de prise en charge par l'employeur sur ces 20%. Cela étant, ça peut être quelque chose qui peut être discuté entre les parties.
On va prendre un nouveau WhatsApp vocal, puisqu'on y est, 079 634 91 98. C'est David, je crois, qui nous a posté ce petit message.
Voilà, bonjour. Écoutez, ma fille travaille dans un contact center en open space à Genève. Ils n'ont quasiment aucun appel à cette période. Ils doivent quand même continuer à travailler, même si certains d'entre eux sont partis en télétravail. Alors, ceux qui restent sont toute la journée, à peu près une distance d'un mètre les uns les autres, donc c'est une distance courte. Hier, ma fille a refusé de travailler en dual pour former un nouveau avec l'utilisation du même téléphone, même écran, même clavier, donc à quelques dizaines de centimètres les uns des autres. Elle est très inquiète parce que elle ne sent pas que ses chefs soient prêts à appliquer les mesures contre le Covid-19. Elle ne sait pas ce qu'elle peut faire. Merci de donner votre avis. Merci, au revoir.
Alors Anne-Marie Van Rampé, peut-être les RH, hein, les conditions de travail, on s'aperçoit que quand on est dans des grands bureaux ouverts, des bureaux très proches les uns des autres, c'est dans ces situations qu'on réalise que peut-être les conditions de travail sont pas optimales. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on est dans cette situation?
Alors si on est dans cette situation, j'ai entendu se faire préoccuper. En réalité, certains peuvent faire du télétravail et d'autres pas. Donc en matière de RH, c'est aussi une règle de base, hein, quelles que soient les circonstances, d'être équitable ou de pouvoir justifier les raisons pour lesquelles certains peuvent travailler à distance et d'autres pas. Donc a priori, dans cette entreprise, le télétravail existe. Et puis cette jeune fille terrorisée va pas pouvoir être efficace bien longtemps.
D'accord. Jérôme ?
Non, je pensais qu'on allait prendre un téléphone.
Mais vous faites très bien, c'est une excellente idée, car Patrick est en ligne de Bienne au 0800 108 208. Allô, Patrick ?
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Enfin, un petit saut en arrière, on parlait de sécurité juste avant les nouvelles. J'ai une personne, une connaissance à moi, qui n'a pas eu de mesures spéciales par rapport au travail, donc elle est censée aller travailler dans des conditions qui sont, effectivement, il n'y a pas de mesures qui ont été prises sur l'hygiène. C'est des endroits qui sont assez restreints, il y a de la proximité. Une personne est arrivée, qui est une personne à risque, elle n'a pas été testée du tout. Donc, elle est très inquiète et cette personne en question, elle a une personne à risque à la maison. Et elle ne peut pas faire de télétravail. Et elle a décidé à partir de lundi de ne plus aller travailler. Du coup, elle essaie de trouver des solutions avec un certificat médical pour essayer de passer, on va dire, légalement, outre le filet qui est encore un petit peu obscur. Mais qu'est-ce qui se passe à long terme dans ces cas-là quand on a une personne justement à risque à domicile, qu'on ne peut pas faire télétravail et que l'employeur n'a pas pris de mesures adéquates, dans l'immédiat en tout cas, ni donner de directives pour limiter le temps de travail ou pour alterner le temps de travail. Comment ça se passe ?
Merci Patrick pour cette question. Alors Stéphanie Fuld, on voit en tout cas dans toutes les questions dans ce guichet télétravail que c'est pas une question de mauvaise volonté, de pas être prêt à faire du télétravail, c'est vraiment des questions de santé. On a un proche ou soi-même qui sommes par exemple immunodéficients ou qui a des problèmes de santé, on veut les protéger, l'employeur ne le permet pas toujours, on voit que le problème c'est vraiment la santé là.
Absolument, mais moi je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. L'employé qui constate que les mesures de sécurité n'ont pas été mises en place auprès de l'employeur doit l'inviter à le faire et de manière très très formelle. Ce sera la première démarche à faire pour qu'ensuite il puisse dire très clairement les mesures de santé de sécurité n'ont pas été mises en place. Je peux donc sans autre travailler chez moi. En plus, il sera doté effectivement d'un certificat médical, ce qui fait qu'il rentre très clairement dans le cadre de cette disposition 10C qui a été adopté hier soir. Et à partir de là, l'employeur devra payer le salaire.
Merci. On va passer à un autre message WhatsApp qui nous a été envoyé. Je vais rappeler quand même le numéro 079 634 91 98. On écoute ce message vocal.
Intéressant les questions sur le télétravail. Simplement, le réseau, on constate qu'il n'est pas fait pour supporter un tel assaut. Que faire dans ce cas-ci ?
Voilà une très bonne remarque, Anne-Marie Van Rampé. C'est vrai que hier, le premier opérateur suisse a connu quelques problèmes parce que les lignes étaient saturées. Il faut s'assurer peut-être d'avoir des connexions Internet suffisantes, mais ça risque de bugger. Ce qui peut aussi nous amener à nous poser la question, est-ce que l'employé est responsable de ces petites problèmes, ces petites cassures de réseau?
Alors non, l'employé ne peut pas être porté responsable de ces petites captures de réseau. Alors il semblerait que les bandes passantes soient suffisantes. Alors le télétravail n'est pas non plus du streaming à plein temps, hein, ou toute la journée. Donc dans ce contexte-là, en effet, en espérant que les opérateurs vont mettre en place le tout, mais l'employé ne peut pas être tenu responsable d'un défaut technologique. Non, ça ça, c'est pas possible. Il doit s'assurer qu'en effet, sa place de travail au domicile permet de réaliser son travail à distance. Mais voilà, dans la mesure de ce qui est offert aujourd'hui, et puis dans cette situation exceptionnelle, en effet, personne n'est à l'abri de bugs.
Je reste avec vous, Anne-Marie Van Rampé, juste pour donner quelques conseils à des personnes qui doivent adopter ces jours le télétravail, qui ne savent pas trop comment s'y prendre à domicile. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseils basiques, les recommandations principales pour se créer une place de travail où on réussit à télétravailler de manière optimale?
Oui, alors d'aménager un espace qui séparé, hein, donc séparé, c'est si possible avec une porte fermée, en tout cas pas dans la cuisine, de se lever le matin, de prendre une douche, de s'habiller comme si on allait au travail, à la limite d'installer une visioconférence genre Skype ou Zoom pour avoir une sorte de contrainte, hein, d'être concentré sur l'activité professionnelle, choisir toujours, hein, dans la mesure du possible, un endroit lumineux. Si c'est un ordinateur portable, de prévoir un clavier, une souris pour que ça soit plus confortable. Choisir aussi une bonne chaise. C'est-à-dire vraiment, en d'autres termes, séparer la partie où je travaille. Donc je ne prends pas à manger devant mon clavier, je prends juste une boisson et je me lève, je fais des pauses. Et pourquoi pas, en ces temps spécifiques, imaginer des pauses virtuelles, visio, avec d'autres collègues où tout le monde pourrait prendre le café en même temps, par exemple. Donc aussi pour la partie visioconférence, de penser à avoir un fond neutre pour faciliter ceci, pas dire « Ah non, mais j'ai pas envie que tout le monde voit comment c'est chez moi ». Donc il y a quelques petites astuces qui permettent de dissocier, d'être « Voilà, je suis en fait à mon domicile, mais je vais me comporter comme si j'étais au travail ».
Stéphanie Fuld, on fait comme au travail, c'est-à-dire qu'on a droit à nos pauses, aux plages de déconnexion telles que le stipule le droit du travail. À ce niveau-là, rien ne change.
C'est essentiellement basé sur un rapport de confiance, ce télétravail, mais évidemment, il est attendu des employés qui travaillent. Et donc, effectivement, ils sont censés travailler 8 heures, et les 8 heures doivent être cassées par des pauses qui sont réglementées dans la loi sur le travail.
Et donc, certains employeurs peuvent se trouver empruntés parce qu'ils n'ont pas la possibilité de forcément vérifier ces horaires, s'ils sont bel et bien effectués. Ils aimeraient... on a reçu d'ailleurs un message qui stipule que dans l'organisation du télétravail, certaines entreprises demandent des rapports à envoyer chaque soir, et puis une planification ou qu'on donne un plan de travail de tout ce qu'on va faire sur la semaine. Mais sur cette vérification, juste cet aspect déjà des horaires, là, les employeurs peuvent pas faire grand-chose finalement pour surveiller tout ça.
Effectivement, c'est basé sur la confiance. Certains employeurs essayent de mettre en place des pop-up sur les écrans pour qu'ils informent leurs employés qu'ils vont être surveillés, puis qu'effectivement les backups vont être contrôlés par rapport à quel moment il y a des log-in et des log-out. C'est discutable d'un point de vue de surveillance des employés, mais effectivement, c'est essentiellement basé sur la confiance que les parties doivent avoir l'une en l'autre.
0800 108 208, encore quelques minutes de guichet pour poser vos questions en direct à nos invités, puis des messages WhatsApp sur le WhatsApp de l'émission. On en écoute encore un.
Oui, bonjour et merci pour votre émission. Moi, j'ai une question par rapport à s'il y a un employé dans une grande banque, on sait qu'il a été en contact avec une personne infectée dans sa famille et continue de venir travailler, être en contact avec les autres employés, ses collègues, et ignore les règles d'auto-isolement. Est-ce qu'au niveau juridique, il n'est pas tenu d'annoncer la situation aux autorités sanitaires? Voilà, merci et belle journée.
Stéphanie Fuld, la responsabilité individuelle, l'envie de bien travailler, l'employeur qui ne l'interdit pas forcément. Est-ce qu'on doit signaler si on n'est pas bien? Est-ce qu'on doit s'interdire un travail? Est-ce qu'on doit dénoncer un collègue? Quelles sont les règles en la matière?
Alors, je pense très clairement, dans ces situations et actuellement avec les recommandations qui sont faites par les autorités, l'employeur qui sait qu'un de ses employés est malade doit impérativement lui ordonner de quitter les lieux de travail. Il en va de la responsabilité de l'employeur à l'égard des autres employés qui sont sur le lieu de travail, et c'est une responsabilité personnelle de l'employé qui est infecté de ne pas se présenter sur le lieu de travail.
Ok. Ben voilà, des informations qu'on peut donner à ce stade. Ah, on a encore un dernier appel, peut-être qu'on va avoir le temps de le prendre. C'est Luc de Cher qui est à notre guichet. Bonjour Luc. Allô, allô.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, vous m'entendez?
On vous entend très bien. Quelle
est
votre question?
Ma question, j'ai entendu des versions un peu contradictoires entre hier et aujourd'hui au sujet des vacances pour les employés. L'UNIA disait que c'était interdit d'imposer les vacances pour les employés dans cette circonstance. Et puis aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai entendu un petit peu le contraire. Je voudrais bien savoir un peu la position à prendre.
Alors très rapidement, on va redire, on en a parlé au début de l'émission, Stéphanie Fuld, pour conclure, les vacances.
Alors je pense que la position de l'UNIA est évidemment une position syndicaliste dans laquelle effectivement ils interdisent la prise de vacances. Je pense que dans un moment de solidarité important, il est aussi du devoir de l'employé de réduire le dommage de l'employeur en prenant ses vacances.
Merci Stéphanie Fuld, avocate spécialiste en droit du travail à Genève. Et merci également en ligne à Anne-Marie Van Rampé, consultante RH et management. On vous souhaite à toutes les deux une très bonne journée.
Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Fin de ce guichet, donc télétravail. Plusieurs appels aussi reçus de personnes désemparées qui n'ont pas forcément Internet, qui se renseignent sur le coronavirus. Alors ce n'est pas nous qui faisons ça à la radio, mais la Confédération a un numéro de téléphone. C'est le 058 463 00 00 058 463 00 00. C'est tous les jours, 24 heures sur 24. Voilà, merci à toute l'équipe. Jérôme Zimmermann, Samuel Morier-Genoux en régie, les recherchistes Delphine Sage, Sébastien Fonvis avec Aniela Galici à nous pour le Standard. Et puis sachez que l'émission CQFD reviendra sur cette annonce faite hier par les États-Unis. Un premier vaccin est testé sur l'humain. Des tests qui ont débuté à Seattle. De quel type de vaccin parle-t-on et quand pourrait-il être disponible contre ce coronavirus? Réponse donc dans une demi-heure dans CQFD. Mais tout de suite, voici Jean-Marc Richard et Chacun pour tous. À demain.
On en parle. Yves-Alain Cornu.